Alors bienvenue pour cette conférence que je vous propose de commencer. Pour ceux qui se seraient trompés de ça, je pense qu'avec les deux volumineux ouvrages que vous avez sur la table, vous découvrez d'emblée le sujet de cette conférence ce soir consacrée donc à André Gide. André Gide qui est considéré comme l'un des plus grands écrivains français, sinon pour d'autres le plus grand des écrivains français, prix Nobel de littérature, et qui a une œuvre conséquente avec une écriture agréable évidemment, mais surtout aisée, vive et parfois très déroutante. Ce soir, on voudrait évoquer un des aspects peut-être moins abordés de Gide, en tout cas dans le grand public, puisque Gide était aussi d'origine protestante. Il a été marqué par cet enseignement, cette culture, et que dans son écriture, il n'y a pas que, loin de là, le plaisir d'écrire, le plaisir littéraire, se cache derrière tout ce mouvement de l'écrivain, en tout cas pour Gide, toute une réflexion, une pensée sur la vie, sur sa manière de concevoir les rapports avec les autres, et sa manière de concevoir en général l'ordre social, voire l'ordre moral. Et donc il y a chez Gide quelque chose de beaucoup plus conséquent, on pourrait dire, au-delà de l'aspect littéraire, qui touche à la personne même de l'écrivain. Et donc Franck Lestringant, qui est professeur à la Sorbonne, spécialiste de littérature française, il enseigne la littérature française du XVIe siècle à la Sorbonne, a consacré ses deux volumes à André Gide, publiés chez Flammarion. C'était véritablement une somme qui fait autorité pour ce qui est de la biographie d'André Gide. Et il nous propose donc de découvrir ce soir ce thème consacré à André Gide, donc André Gide ou la rédemption par l'écriture. Alors je vous propose de le laisser parler pendant 45-50 minutes, et puis après quoi on pourra échanger, poser des questions, intervenir sur les propos tenus par Franck. Et je le remercie évidemment au nom de toute la librairie d'avoir accepté notre invitation. Je remercie aussi au passage la médiathèque de Cholet et toute l'équipe de la ville de nous accueillir à nouveau dans ces locaux et de mettre à disposition ces locaux à la librairie Jean Calvin.
Merci Franck. Donc j'aborderai ici un thème un peu marginal peut-être, et de l'œuvre d'André Gide et du personnage d'André Gide, de la vie d'André Gide, et je parlerai des quelques mois ou des quelques années qui ont précédé sa mort. Donc Gide est né en 1869, donc sous le Second Empire, et il est mort sous la Troisième République sous la Quatrième République, excusez-moi, en 1951. Voilà, il est mort donc il y a 65 ans. Gide, donc dans une première partie de sa vie, Gide est un écrivain symboliste, un écrivain et poète symboliste, disciple de Mallarmé, ami de Claudel par exemple, ami de Paul Valéry, et il va petit à petit s'écarter de cette ligne à travers ses voyages qui vont le conduire en Afrique du Nord notamment, puis en Afrique noire entre les deux guerres, et en Union soviétique en 1936. Et après une première période de sa vie consacrée à l'écriture, à la rédaction, il va consacrer la seconde partie de sa vie à une œuvre de, disons, de publiciste, de propagandiste, une œuvre où la littérature est toujours importante, bien sûr, et toujours sa préoccupation principale. Il tient son journal, il écrit chaque jour son journal, dont les deux tomes sont publiés dans la bibliothèque de la Pléiade aujourd'hui. Mais il s'occupe davantage des problèmes de l'époque, par exemple du communisme, dont il est un des défenseurs, jusqu'au moment où il se rend en Union soviétique. Et puis, il fait la critique du communisme. C'est le premier à faire le procès du stalinisme, disons le premier à avoir une audience telle qu'il en rencontre à son époque. Et la fin de sa vie est surtout consacré à lui-même. Il écrit sur lui, il tient toujours son journal jusqu'à la fin, et il se regarde vivre et mourir tout en étant accompagné par ses amis. Alors je prendrai sa biographie par la fin en quelque sorte. Gide meurt en février 1951 et je prendrai au début de l'année 1949, donc peu de temps avant sa mort. Et au début de 1949, Gide, donc, qui va mourir donc à 82 ans, presque 82 ans, hein, 81 ans et quelques mois, il est né en novembre 1869 et il meurt en février 1951. Donc il a passé les 81 ans, il les a légèrement dépassés, mais il était encore loin des 82 ans. En ce début d'année 49, Gide crut bien qu'il allait mourir. Le 19 février au matin, il eut une petite attaque cérébrale, aphasie de quelques heures, paralysie partielle, et pendant plusieurs jours, ses médecins, et le professeur Jean Delay en particulier, ont été sérieusement inquiets. Appelé au téléphone par Pierre Herbart, un ami homosexuel comme lui, un peu avant 8 heures, le professeur Delay se précipita donc à l'appartement de Gide, au Vanneau, où Gide reposait sur son lit, le visage déformé, les lèvres obliques. Sa parole était embarrassée, il avait une grande difficulté à écrire. Et pour lui, le drame supérieur, le drame qu'il redoute, c'est de vieillir et de devenir paralytique, et surtout d'être incapable d'écrire. Le diagnostic est clair, la situation n'était pas désespérée, elle était grave, sans doute un spasme d'une artériole cérébrale qui pouvait être précurseur d'une hémorragie. Bon, on dirait peut-être, ce que j'ai éprouvé moi-même, il a eu un AVC, quoi, en quelque sorte. C'est une sorte d'AVC qu'il a eu. Quelques instants plus tard, en fait, c'est pas très grave, il se remet, le visage toujours altéré, déformé, il retrouve une élocution presque normale. « Le côté gauche de ma figure me tire, comme si l'on avait mis un emplâtre. Est-ce que cela se voit? Je voudrais une glace. » Alors il demande une glace à ses amis. On fit en sorte de ne pas trouver la glace demandée. Quand l'alerte fut passée, quelques jours plus tard, Gide, convalescent, fixa le médecin droit dans les yeux. « Cher ami Delay, » le médecin s'appelle Jean Delay, « cher ami Delay, ce que j'ai eu, cela s'appelle bien, n'est-ce pas, une attaque. » Comme on disait à l'époque, on ne disait pas un AVC, on disait une attaque. Le médecin ment et le patient comprend. « Vous ne me trouvez pas diminué ?» Point d'interrogation. Évidemment, le médecin dit non. La grande peur de Gide, c'est de perdre ses facultés intellectuelles, sa mémoire qu'il exerce à tout propos, ses mots qu'il avait un peu plus de mal qu'autrefois à retrouver et à retracer sur le papier. Et je cite « Je deviens agrafe, agrafe. Je deviens agrafe, hein, donc je n'écris plus, quoi. Je deviens agrafe, ne protestez pas, quand je me relis, je remarque des élisions de lettres et même de syllabes, c'est très curieux, est-ce que c'est connu? Cela doit avoir un nom. » Bon, il y a déjà le nom d'agrafe, hein, celui qui n'écrit pas, quoi, qui n'écrit plus. Il se remit lentement, prit sa revanche sur son médecin, sur Jean Delay, immobilisé peu après à la suite d'une entorse au pied. Et c'est Gide, évidemment, qui rend visite à Jean Delay. Ce fut au tour de Gide de lui rendre visite. « Cher et nouvel Oedipe, dit-il à Delay, rendant au nom grec son sens étymologique de pied gonflé, Oedipus, rien de plus heureux ne peut me toucher. » Le 23 avril 1949, donc, Gide descend en voiture à Nice, accompagné jusqu'à Aix par Pierre Herbart, et s'installa chez des amis à eux, des amis anglais, les Bussy. Et Dorothy Bussy était la traductrice en anglais de l'œuvre de Gide, de ses romans principalement. Roger Martin Dugard vient lui rendre visite, Roger Martin Dugard qui habite Nice à ce moment-là, et le trouve rajeuni, ressuscité. Debout, habillé de neuf, l'œil vif et gai, le visage reposé malgré le long voyage, aucune trace de l'attaque dans les traits, le corps souple et agile, un air de santé et de jeunesse incroyable. Donc en 1949, Gide a 78 ans, non, excusez-moi, 79 ans, 80, oui, entre, pas loin des 80. Toute la soirée, Gide manifesta un entrain joyeux, parlant avec animation de mille choses, des gens vus à Paris, des derniers livres lus, du journal de Goebbels notamment, le procès du cardinal Joseph Mincenzi à Budapest. Il se croyait revenu plusieurs années en arrière. Gide, pourtant, ne se faisait guère d'illusions sur son état de santé. Il s'enquit auprès de Martin Dugard, d'un médecin cardiologue à Nice. Sage précaution, en effet, le surlendemain, 25 avril, Gide subit une nouvelle attaque. Il fallut l'hospitaliser d'urgence à la clinique du Belvédère, à Nice, 12 boulevard du Tsarévitch. Cette fois, il eut des complications. Atteint par une crise hépatique, Gide est menacé d'une intoxication biliaire qui peut être mortelle. On le soumet à un traitement, à la pénicilline. Et Gide va progressivement entrer en convalescence. Et de cette convalescence va sortir un écrit autobiographique, où il va raconter son agonie. Martin Dugard, donc, rend visite à Gide chaque jour. Il est le seul dont il supporte la présence. Il passe à son chevet un mois inoubliable de quotidienne intimité. Ils s'entretiennent familièrement de la mort. Gide professe un tranquille agnosticisme qui ravit Martin. Alors, Gide, à ce moment-là, a quitté le... Enfin, à laisser tomber, si je puis dire, le protestantisme dans lequel il a grandi et dans lequel il a vécu jusque à plus de 40 ans. C'est au moment de la guerre de 14 qu'il s'éloigne de la foi de ses pères et de sa famille. Au moment de la guerre de 14, Gide, donc, qui a 45 ans, s'occupe des réfugiés belges notamment, et il s'occupe du foyer franco-belge qu'il fonde avec Maria van Rysselberghe à Paris. Et pendant les deux premières années de la guerre de 14 et 15, il s'occupe du foyer à temps plein et il cesse d'écrire. Il s'occupe des réfugiés et renonçant même à l'écriture, le journal est tenu de façon très erratique, très rare. Mais au bout de 2 ans, Gide abandonne le foyer franco-belge suite à des disputes, à des conflits internes. Il se réfugie à Cuverville en février 1916, c'est à ce moment-là qu'éclate la bataille de Verdun. Exactement au début de la bataille de Verdun, Gide se réfugie à Cuverville et il racontera plus tard qu'on entendait de Cuverville le canon du front. On entendait qui était pourtant très éloigné, qui était à peu près à 200 km. Cuverville est quand même loin de la ligne de front. Et Gide, se retrouvant dans la solitude, au milieu de la neige, à Cuverville, commence à écrire ce qui est sans doute son œuvre majeure, à écrire ses mémoires. Et ses mémoires qui seront publiées sous le titre de « Si le grain ne meurt ». Ses mémoires qui commencent par un peu à la manière de Jean-Jacques Rousseau, par un récit de son enfance et de sa jeunesse, où il fait ressortir les problèmes sexuels, il ne les cache pas, avec une espèce d'insolence, et avec une sorte d'iconoclasme, mais en même temps un immense amour de retrouver ce passé enfoui. Et ce journal va se prolonger ensuite par sa rencontre avec Marc Allégret, la séduction de Marc Allégret, ce jeune homme qu'il va séduire et qui va être son amant préféré, qui va être son amant jusqu'à la fin de sa vie. Je reviens à 1949. Il va écrire un texte qui s'appelle Adagio. Adagio. Donc Gide reçoit chaque jour la visite de Roger Martin Dugard et il professe un tranquille agnosticisme. C'est Socrate consolant ses disciples après avoir vu la ciguë, Sénèque saignant dans son bain tout en dictant ses dernières volontés. Le tableau, le portrait de Gide à l'agonie ou survivant à son agonie est donné par Martin Dugard. « Cher, disait Gide à Martin, ému jusqu'aux larmes, la notion d'une âme immortelle, l'idée d'une survie quelconque, est littéralement impensable pour moi, et impensable souligné dans le texte. Et de plus en plus, à mesure que je vois venir la fin, je ne parviens même pas à comprendre que ce soit pour tant d'autres un espoir nécessaire. Je n'éprouve vraiment aucun besoin de m'imaginer que tout ne finit pas avec la mort physique. Je n'éprouve vraiment aucun besoin de m'imaginer que tout ne finit pas avec la mort physique. Je suis prêt à disparaître si le moment m'en est venu. J'ai tout dit. J'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Et puis, voilà. Les soirs de fièvre... Alors, tout ceci est transcrit par Roger Martin Dugard dans ses lettres. Les soirs de fièvre ou de défaillance cardiaque Gide lui serrait plus longuement la main et lui disait adieu avec plus d'émotion que d'habitude. L'idée de la mort, donc écrit encore Martin Dugard, l'habitait constamment, sans jamais l'obséder. Imperturbable, Gide lisait à longueur de journée l'Énéide, dans le texte, évidemment, il lit l'Énéide en latin, l'esprit parfaitement disponible, ravi s'il découvrait quelque beauté qu'il n'avait pas remarquée jusque-là. Il sort enfin de clinique le 27 mai, après plus d'un mois d'hospitalisation, pour entamer sa convalescence à Saint-Paul-de-Vence, à l'hôtel de la Colombe d'Or, puis à Juan-les-Pins, où Florence Gould, la mécène américaine, lui offre une large hospitalité. Gide rend grâce à l'ami fidèle. De la fondrière désertique qu'il vient de traverser se détache la quotidienne oasis inespérément charmante des visites régulières de l'incomparable ami que fut pour moi durant ce long temps de purgatoire, Roger Martin Dugard. Il y a une fidélité de Gide envers Martin Dugard, hein, qu'il révère comme un ami, bien qu'ils se disputent sans arrêt. Hein. Leur correspondance est assez amusante, ils sont sans arrêt en désaccord, mais ils sont amis malgré tout, et ils restent amis jusqu'au bout. Gide parle de Martin Dugard comme Montaigne parlait de la Boétie dans la fameuse lettre écrite à son père, avec interversion des rôles, car l'unique ami, cette fois, ce n'est pas le mourant, mais le bien portant, retenu par l'affection auprès du malade, attentivement penché pour recueillir ses dernières paroles. Je cite, « Sa seule présence déjà me rattachait à la vie, il prévenait tous les besoins de mon esprit et de mon corps, et si morne que je pusse être avant sa venue, je me sentais bientôt tout ranimé par ses propos et par l'attention affectueuse qu'il portait au mien. » Je ne sais si jamais dans le passé je pus sentir mieux l'ineffable bienfait de l'amitié et quel effacement, entre parenthèses excessif même, de son intérêt propre, de soi-même. Martin Dugard savait mieux l'amitié que Cicéron, il la pratiquait comme Étienne de la Boétie, l'ami de Montaigne. Mais il n'avait pas besoin pour cela de se mettre à l'école de la philosophie stoïque ou de croire en un quelconque salut après la mort. Non, non, concluait Gide. La religion n'obtient pas mieux ni si naturellement. La religion n'obtient pas mieux ni si naturellement. Alors, Gide a perdu la foi au moment, depuis longtemps perdu la foi. Il a perdu la foi donc en 1916, au moment de la bataille de Verdun, au moment où il commence à écrire C'est le grain de meur. Mais il a il y a ancré en lui, ancré dans sa conscience, une identité protestante à laquelle il reste fidèle jusqu'au bout. Alors que Martin Dugard, lui, a rompu brutalement avec son catholicisme, et Martin Dugard se déclare athée, et Martin Dugard causera même un scandale, se mettra en colère à la sortie du cimetière de Cuverville, lorsque Gide aura été enterré, parce qu'il y avait un pasteur, on avait convié un pasteur à venir, et Martin Dugard est scandalisé par la présence du pasteur. La religion est en effet au cœur de leur entretien. Ou plutôt l'inutilité de la religion. C'est à la clinique de Nice, courant mai, que Gide coucha par écrit une sereine méditation sur la mort, qu'il intitula Adagio, qui est un des plus beaux textes de Gide, et publia à part à l'automne dans le numéro 24 de la Table Ronde, avant de la réintégrer à son journal à la date du 15 mai 1949. En témoignage de reconnaissance, Gide en offrit le manuscrit, 9 grandes pages in quarto, rempli de son écriture fine, à Florence Gould, qui l'héberge donc à sa sortie de clinique. Gide dit n'éprouver aucune peur de la mort, à demi détaché déjà des liens du corps et parlant de lui-même à la troisième personne. Spiritualiste à un point qui n'est pas croyable, il n'a jamais été prié, ou pleuré, ou médité sur la tombe de ses parents. C'est la première observation d'Adagio. Il ajoute aussitôt, car cela remonte loin, cette insouciance de la matière qui fait qu'elle ne retient pas ses regards. Cela remonte loin, en effet, aux origines même de la réforme, peut-on dire, quand l'enthousiasme des foules soulevé par les sermons des prédicateurs brisait les tombeaux, dispersait reliques et ossements à tous les vents du ciel, appliquant à la lettre l'injonction christique « Laissez les morts ensevelir les morts ». On a déjà noté l'indifférence très protestante de Gide à l'égard du destin matériel des défunts. À la tombe de Madeleine, il n'a rendu qu'une unique visite en juin 1945. Donc Madeleine, qui a tenu un si grand rôle dans sa vie, Madeleine a disparu au printemps 1938. Il ne l'a rendu qu'une visite en juin 1945, peu après son retour en France, après une absence de 3 ans en Afrique du Nord. Encore, est-ce à l'invitation expresse de Georges Simenon. Georges Simenon le conduit dans sa voiture, donc, jusqu'à Cuvierville, de Paris à Cuvierville, aller-retour. Donc, Simenon emmène Gide à travers la Normandie, ravagée par la bataille toute récente. Les villes sont en ruine, la cathédrale de Rouen est à moitié détruite. Lui-même n'a nul souci du devenir de sa dépouille, indifférence à la matière, une sorte d'incrédulité plutôt, comme s'il n'y croyait pas. L'expression est de Gide, comme s'il n'y croyait pas. Là est sans doute le plus étonnant. La déclaration d'athéisme de Gide, Gide se dit athée, mais il ne l'est guère à mon avis, ne vise nullement l'âme, mais le corps. L'âme reste hors d'atteinte, alors que le corps d'où s'est retirée la vie témoigne de sa patente inanité. Comment croire à la réalité, au sérieux du cadavre ? À l'appui de ce doute paradoxal en face du cadavre, Gide allègue deux des expériences les plus traumatisantes de sa vie. La fausse couche de Jeanne Drouin. Jeanne Drouin, c'était sa cousine et sa belle-sœur, la sœur de sa femme, et la mort de Madeleine, la mort de sa femme. Séparées par quelques 30 années, les deux scènes ont pour théâtre le manoir de Cuvierville. La fausse couche de Jeanne Drouin, remonte à l'orée du siècle, à certains matins désolés et moites de juillet 1903. Après quelques 60 heures de travail et de souffrance, il avait fallu, pour l'extraire, découper l'enfant dans le ventre de sa mère. De l'enfant mort-né, il ne restait en définitive qu'un amas confus, je cite, de débris sanguinolents souillés. Cela n'empêcha pas de lui donner un prénom, Pascal, et de l'habiller comme un bébé, un nœud de satin bleu à la tempe droite de son bonnet de dentelle. Gide, un long moment, a contemplé avec un mélange de surprise et d'incrédulité le petit cadavre toiletté et couché dans son berceau, en attendant la mise au tombeau rituel. L'expression est de Gide. Comment est-il possible de supposer qu'une âme, un court instant, avait habité ce corps ? S'arrachant à ce souvenir morbide, mais plus encore étonné, Gide coupe court à ce premier tableau. Je cite, « Il a sa tombe à Cuvierville, dans ce cimetière où je ne veux pas retourner. » Et finalement, Gide est enterré, comme vous savez. Donc ça, c'est le premier souvenir traumatisant, la fausse couche de Jeanne. Donc Jeanne Drouin, la sœur de Madeleine, a accouché d'un enfant qu'on était obligé de tuer pour l'extraire. Et Gide a assisté à toute la scène. Il assistait à toute cette scène horrible, puisqu'il tenait le corps de la mère. Enfin, c'est une scène horrible qui est racontée plus ou moins dans le journal. Ensuite, c'est la vision de Madeleine sur son lit de mort. Une vision trompeuse, un faux semblant, ou pour mieux dire, un trompe-l'œil. Non, cette chose raide et guindée, ce ne peut être elle, ce n'est plus elle. Ce n'est qu'un masque, une peinture, un tableau au vernis glacé. Sans plus cette sorte d'aménité souriante qui tempérait toujours sa gravité, on eût dit une janséniste de Philippe de Champagne. Les protestants n'aiment pas les jansénistes. Tout le portrait de Mère Angélique Arnaud. Le cadavre de Madeleine n'est pas Madeleine, c'est au mieux Alissa, l'héroïne de la porte étroite, un personnage de fiction, une créature de papier, un simulacre. En passant d'une scène à l'autre, de la fausse couche de Jeanne, ou plutôt de cet accouchement d'un cadavre à la mort de Madeleine, Gide a éprouvé ce sursaut, et voici ce qu'il dit. « L'âme, il va sans dire que j'y crois, pour sûr que j'y crois à l'âme, j'y crois comme à la lueur du phosphore, mais je ne puis imaginer cette lueur sans le phosphore qui la produit. » En d'autres termes, il ne croit pas à l'âme séparée du corps. Il refuse le dualisme facile qui console les faibles. L'âme, à ses yeux, n'existe qu'incarnée, animante un corps. Il énonce ce credo, qui est un véritable hymne à l'amour. Alors, je veux bien dire que l'âme seule m'importe, mais elle ne peut se produire et se manifester, mais je ne puis la comprendre et l'appréhender que par le corps. Et c'est par celui-ci, en dépit de tout mysticisme, que devient possible toute manifestation de l'amour. Donc, Gide, qui se dit athée, prononce cette déclaration qui est pour le moins paradoxale et ambiguë. La mort reste à ses yeux le grand mystère. C'est lui qui emploie l'expression, le grand mystère. À ce mystère, l'Église répond comme elle le peut, par le dogme guère plus absurde qu'un autre, en définitive, de la résurrection de la chair, preuve qu'elle non plus ne peut concevoir l'existence d'une âme éternellement privée de corps. Gide n'est pas matérialiste pour autant, bien au contraire. À l'idéal standardisé des églises, protestantes ou catholiques, qui accentue jusqu'au divorce l'antagonisme de l'âme et du corps, il oppose une fois de plus la parole du Christ dans l'évangile de Jean. « Mon royaume n'est pas de ce monde », chapitre 18, verset 36. En écho, il s'exclame « Je crois au monde spirituel, tout le reste ne m'est rien ». C'est en revanche le monde d'ici-bas, je cite, « qui pour le commun des êtres, seul existe ». C'est ce monde qui lui paraît étrange et irréel. Tout simplement, il n'y croit pas. Surprenante affirmation que celle-ci, formulée au soir de sa vie par l'ancien compagnon de route du Parti communiste. On voit que Gide, malgré tout, est resté protestant tout en se déclarant parfois athée, en étant en vérité agnostique. Gide précise toutefois, mais ce monde spirituel, je crois qu'il n'a d'existence que par nous, qu'en nous, qu'il dépend de nous, de ce rapport que lui procure notre corps. La croyance au spirituel n'exclut nullement la jouissance charnelle, ou pour parler le langage des théologiens, la fruition de la chair en ses mille apparences sensibles et désirables. Pour finir, Gide glisse ce cynique aveu comme un blasphème au bas du sermon, au-dessous de quoi s'étale à l'aise ma constante sensualité. Sur son lit de malade, à Nice, Gide déclare consigne ce testament. Mais il a à côté de cela des préoccupations beaucoup plus terre-à-terre. Quand il redescend du ciel des idées, c'est pour s'inquiéter de sa voiture. Il a une voiture, il ne conduit pas, mais il a un chauffeur, comme on avait à l'époque. Sa voiture est toujours au garage, faute de carburant. Il faut Quant à l'automne précédent, il s'adressait à un certain André Dubois, un préfet homosexuel qui était de ses amis, et son ultime recours. Le 23 mai, encore alité, Gide informe le préfet de Seine-et-Marne de ses problèmes de santé et d'essence. Depuis un mois à la clinique du Belvédère, crise hépatique infectieuse, espère être en état de gagner Saint-Paul-de-Vence dans quelques jours, ou travailler avec Prévert, Yves Allégret et Pierre Herbart, encore à peu près incapable d'écrire, mais pourtant pas de vous dire combien des bons d'essence me rendraient service. Ces fameux bons d'essence étaient adressés à M. Roger Martin Dugas, Grand Palais, boulevard de Cimiez, à Nice, et qu'il lui fait reparvenir le plus tôt possible à Nice ou à Saint-Paul-de-Vence. Donc, il va quitter Saint-Paul-de-Vence pour Jean-Lépin, et il va séjourner, Villa Joyeuse, rue Fontaine-du-Pin, Joyeuse ainsi nommée, mais là, assurément... fourmis et moustiques qui pullulent, affreux les meubles et la décoration, installés dans un fauteuil au milieu du salon, Gide désigne du doigt à Claude ce qu'il faut faire disparaître. À la fin, il ne reste plus rien. La plage à proximité est encombrée, l'eau tiède et sale, l'air moite et suffocant. Non sans humour, Gide se plaint de son isolement, alors que son entourage a bien du mal à écarter les importuns. C'est cette idée-là que Gide tourne un des films dans lesquels il apparaît. Nicole Védresse tourne « La vie commence demain », un documentaire en noir et blanc de 86 minutes illustrant la renaissance des forces intellectuelles au lendemain de la guerre. C'est le thème du film. La trame narrative est élémentaire. Un jeune touriste de province, Jean-Pierre Aumont, est pris en stop par un journaliste en hélicoptère, André Labarthe, qui décide pour lui ouvrir l'esprit de lui faire connaître les sommités intellectuelles de l'époque. Il rencontre tour à tour le philosophe Jean-Paul Sartre, qui lui fait prendre conscience de la responsabilité collective de l'humanité. le psychanalyste Daniel Lagache, qui l'entretient de l'inconscient, le physicien Frédéric Joliot-Curie, qui fait un bref topo sur les sciences atomiques et leurs terribles effets, le biologiste Jean Rostand lui explique ensuite la parthénogenèse, et l'architecte Le Corbusier l'emmène dans la cité radieuse des lendemains qui chantent. Gide, écrivain, Picasso, artiste, et Prévert, poète, complète la visite. Le journaliste conclut par un hymne à la vie dont l'homme, maître de la nature, doit user avec discernement. La séquence avec Gide et Picasso est tournée à Antibes courant juillet. Le seul événement de cet été 49 est que Gide, après 20 ans, se remet au piano. C'est après un long abandon, une véritable résurrection et un nouvel apprentissage. Dans la villa de Jean Lépin, vidée de ses bibelots et de ses peintures criardes, Gide rôde pendant quelques jours autour du piano, palpant l'instrument, puis les quelques partitions de rebut qui traînent là. Un soir, on l'entend qui pianote quelques bribes de Chopin. Claude Maillaz descend un pas feutré, l'aperçoit debout devant le clavier, jouant avec trois doigts. Gide s'interrompt. « Tu étais là, » dit-il au bout de quelques minutes. « Je ne sais plus rien, mes doigts n'obéissent plus, ça m'aurait plutôt amusé. » Suivent deux ou trois jours où il paraît bouder le piano. Finalement, il traîne une chaise et s'assied. Il ressaisit le clavier comme une planche de salut. Le lendemain, il se fait prêter de la musique. La mémoire revient, l'oreille est bonne. Mais ses mains, ses pauvres mains, ont perdu leur agilité d'antan et surtout leur vigueur. Il les force à se délier. Gide atteint les 80 ans. Sollicité par des amis anglais, il rédige un petit texte « Avoir 80 ans » qui fut aussitôt traduit. D'humeur enjouée parfois, sur le ton plein d'humour qui convient à l'exercice, il dresse un premier bilan de son existence et en tire quelques leçons. Un des secrets de son optimisme est de ne pas s'arrêter ses vœux trop vite, d'avoir continué de souhaiter au-delà de ses forces. C'est le meilleur moyen d'augmenter celle-ci. Si c'était à recommencer, il emploierait mieux son temps, vivrait plus, voyagerait davantage, et surtout dans des pays plus divers. Une sorte de paresse l'a conduit à revenir toujours sur les mêmes lieux pour raviver un passé qui n'avait plus rien à lui apprendre. Gide vante ensuite les vertus de l'individualisme contre tous les systèmes en vertu de l'adage « chacun est plus précieux que tous ». L'Angleterre et la France devaient s'unir dans le refus de toutes les obédiences et de toutes les solutions collectives. Face à la puissante séduction des totalitarismes, la force des insoumis consistait dans leur capacité de résistance aux mots d'ordre et au credo imposé d'en haut. Gide, bien sûr, a regretté son temps de campagnonnage avec les soviétiques et la présence des communistes est plus importante après-guerre qu'avant. Revers de cette liberté individuelle, la dispersion apparente des efforts. Gide alors cette conclusion d'une soudaine et définitive gravité. C'est un réseau qui reste épars sur notre vieux monde, menacé de partout, condamné, semble-t-il, mais qui, comme les martyrs premiers chrétiens écrasés, doit se convaincre que c'est dans la défaite même qu'il triomphe. Et on voit que, par cette référence aux premiers martyrs chrétiens persécutés et qui doivent résister, hein, en petits groupes isolés, c'est le protestant aussi qui ressurgit, hein, qui résiste, hein, résister. Gide donc passe ces derniers mois de sa vie. C'est très différent des vieillesses d'aujourd'hui où on prolonge la vie jusqu'à la fin et au-delà finalement de la lucidité. Gide a décidé de mourir. Donc à 81 ans et demi, il se laisse mourir et il cesse de manger, tout simplement. Et en février, donc début février, il cesse de manger, il cesse de vouloir vivre, sans douleur, sans pathétique. Il relit Virgile, il relit les bucoliques de Virgile, en latin, toujours en latin, et il écrit son journal jusqu'à une semaine de sa mort. Il écrit ses derniers mots, et finalement, il part, hein, il s'échappe finalement. Son dernier écrit, ce n'est pas tout à fait un journal, c'est « Ainsi soit-il » où les jeux sont faits. « Ainsi soit-il », le journal oblige à écrire chaque jour et à écrire de façon discontinue. Un journal est forcément lacunaire et soumis à ce qui s'est passé dans la journée, ou ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu, ce qu'on a vu. Dans Ainsi soit-il, Gide raconte ses souvenirs, mais dans le désordre. Il part d'une idée, d'un événement qu'il a vécu dans la journée, par exemple, et puis il revient en arrière, et il écrit en improvisant, enchaînant les idées les unes à la suite des autres, en se répétant, parfois il y a des répétitions, il y a des redites, et jusqu'à la fin, il écrit « Ainsi soit-il, où les jeux sont faits ». Déjà, le titre est intéressant, « Ainsi soit-il, où les jeux sont faits ». Donc, « Ainsi soit-il », formule biblique, formule religieuse, « Les jeux sont faits », c'est plutôt le casino. Et il juxtapose les deux, c'est lui qui a choisi le titre, il juxtapose les deux formules sans voir d'exclusive. Le premier terme n'exclut pas le second. C'est un exercice, un essai à la manière de Montaigne. Ainsi, dès le début, se corrige comme un écolier. « Je viens de biffer quatre mots, c'est tricher. » Il déclare encore « Je prétends ici m'amuser, un vrai gamin. » Et ce gamin va écrire jusque vers le 10 février 1951. On trouve dès la première page la référence à Descartes. On ne voit pas très bien ce que Descartes vient faire ici. Descartes et son poêle, le poêle où Descartes se réfugie l'hiver en Hollande et où il écrit le discours de la méthode. Il est vrai que Gide est frileux et que les hivers sont très rigoureux après-guerre. Mais Montaigne est beaucoup plus à sa place ici. Gide, du reste, le paraphrase « Si j'ai désir de me contredire, je me contredirai sans scrupule. Je ne chercherai pas la cohérence, mais n'affecterai pas l'incohérence non plus. » Ni cohérence, ni incohérence, une écriture cavalière, au fil de la plume, ou comme dit Gide, à plume abattue. C'est l'expression à plume abattue, comme à bride abattue, à plume abattue. Montaigne allait de la plume comme des pieds, comme Montaigne le dit dans les essais, je vais de la plume comme des pieds. Il faisait le cheval échappé. Ainsi soit-il, c'est tout à la fois de la vanité et de l'expérience, les plus digressifs et les plus jubilatoires des derniers essais. Rien d'une autobiographie, mais un autoportrait par touches successives, par vues juxtaposées, sans cesse en glissement, en aparté, en digression, l'équivalent exact des essais de Montaigne, des essais dernière manière, ce que Gide affectait pourtant plus jeune de ne pas apprécier. Comme Montaigne sur ses vieux jours, mais Montaigne sur ses vieux jours n'avait que 59 ans, n'est pas 60 ans, Gide nous fait part de ses goûts, de son régime alimentaire, de ses petites manies. Le meilleur vin, je l'aime autant coupé d'eau. Mieux même, à la française, selon Montaigne, au grand scandale de mes amis. Donc, Gide dialogue avec Montaigne. Il consacre toute une page, en s'excusant après coup de pareille platitude, à l'invraisemblable galurin couleur café. Il y consacre toute une page, en s'excusant après coup de pareille platitude. Il l'a acheté avant-guerre à Carlsbad et il l'a porté pendant des années, autant avant que Madame Théo van Rysselberg ne lui en offre un autre. La dernière note du manuscrit, sur la couleur de la robe de Catherine, qui est sa fille, est précédée de la mention « Après pisser ». Voilà, dernière note du manuscrit. Il s'est relevé la nuit pour pisser et il l'écrit, voilà. Montaigne, dans son journal de voyage en Italie, n'épargnait rien à son lecteur de ses urines et de ses maux de ventre. Si vous avez lu le journal de voyage de Montaigne, c'est un peu la liste de ses maux et de ses passages aux urinoirs. C'est un peu pénible parfois. Comme celle de Montaigne, l'écriture de Gide s'enracine dans un corps qui vit, respire, se meut, jouit et souffre. Les souvenirs, les anecdotes, les bons mots, les propos à bâton rompu se succèdent dans un agréable désordre, comme ils viennent. On n'est pas très loin de l'écriture automatique des surréalistes, même si l'entreprise est conduite en toute lucidité. En effet, ce que Gide recherche dans cette ultime aventure littéraire, c'est par-delà la logique, une sorte de psychologie cachée. Le dimanche 29 octobre 1950, il fait lire le manuscrit en cours à la petite dame, Maria van Rysselberg, qui habite l'appartement d'à côté, un manuscrit qu'il envisage déjà de publier. J'entrais dans ce manuscrit avec une certaine défiance, crainte plutôt, mais tout de suite je me sens soulagé. J'y trouve un ton nouveau, adouci comme apaisé, libre et par là même assez pathétique. Les anecdotes entendues 100 fois, elle les connaît par cœur, mais ce qui retient son attention, c'est la manière dont encore et toujours il parle de lui-même. Elle note à cet égard, sa volonté de sincérité n'a jamais été plus sensible, mais sincérité n'équivaut pas forcément à vérité. Elle relève ici et là de petites contre-vérités et de touchantes inconséquences, quelques flagrantes dénégations aussi, le tout pris dans le flux d'une écriture sans césure, ni repentir, le jet artésien du style, une mémoire intacte et gonflée à se rompre. Alors voilà, c'est ainsi que s'achève la vie de Gilles. Alors, la religion, la croyance est presque absente, hein, sauf dans l'épisode que je citais au début de cette conférence, et qui est un peu le dernier mot du Gide théologien, du Gide théologique, du Gide qui a vécu la Bible à la main pendant une moitié de sa vie, hein, qui a perdu la foi à 45 ans au moment de la bataille de Verdun, quand il a fait la connaissance de son ami, le fameux Marc Allègre. Voilà, je vous remercie.
Merci Franck pour ce parcours dans les deux dernières années de la vie d'André Gide. Une vie qui est rythmée par, on pourrait dire, son égo, si je suis un peu
propre. Ah bah oui,
puisqu'il se situe donc au centre de toute son œuvre. Et on l'a vu avec ce que tu as dit, ce protestantisme, cette culture, cet enseignement, cette éducation protestante ressurgit malgré tout en arrière-plan dans ses écrits. Je pense qu'il y a des questions, il y en a certainement de susciter parce que tu as dit à la fin aussi, où cette amie, cette voisine fait la distinction entre sincérité et vérité. Et il y a chez Gide cette recherche sans cesse de sincérité. Est-ce qu'il a eu cette soif de vérité, est-ce qu'il l'a trouvée, c'est une autre question. Mais il y a certainement eu un piège, en tout cas pour ma part, quand je lis et la biographie et les œuvres de Gide, je vois un piège dans cette recherche absolue de sincérité, puisque en recherchant la sincérité, Gide a tenté aussi d'atteindre une vérité qui lui était propre.
Ouais.
Qui peut-être, d'un point de vue religieux, spirituel ou mystique, malgré tout, lui a quand même échappé. Je vous laisse en tout cas réagir, si vous avez des questions, des remarques, auxquelles Franck peut tenter, et même certainement répondre. Je ne sais pas s'il y a un micro.
Il y a de longues années que je n'ai pas lu Gide,
mais
j'ai un souvenir.
Oui.
Je pense que c'est dans le journal, et je pense que c'est pendant les années de Tunisie, où il redécouvre l'Évangile. Et j'avais été très impressionné en lisant ça. Lui qui avait lu des bibliothèques entières de toutes sortes, il redécouvre, je crois que c'est l'Évangile de Jean, dans sa nudité, et il a des phrases étonnantes, comme si la source de toute chose se trouvait, alors c'est peut-être une appréciation d'esthète, mais dans la force de l'Évangile. Je pense que c'est en 42 ou...
Oui, c'est...
Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, alors Gide a lu la Bible pendant des décennies. Il s'est promené, on le plaisantait parce qu'il se promenait avec la Bible dans sa poche pendant partout où il allait, jusqu'au début des années 1910, jusqu'à la guerre de 14 en gros. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que son compagnon de pédérastie, enfin de fugue pédéraste, qui est Henri Guéon. Henri Guéon, qui partage les mêmes goûts sexuels que lui, c'est-à-dire qui s'attache aux très jeunes garçons. Henri Guéon, tout d'un coup, se convertit. Henri Guéon est médecin aux armées. Et les horreurs qu'il voit pendant les deux premières années de la guerre le convertissent. Il se convertit au catholicisme. Et Henri Guéon essaye de convertir à son tour Gide, et Gide est prêt, dit-il, à se convertir. C'est en 1916, donc, au début de la bataille de Verdun, Gide se retire à Cuvierville, comme je l'ai dit, il commence à écrire « Si le grain ne meurt ». Et dans le même temps, il écrit une sorte de journal théologique ou évangélique. où il essaie de retrouver la foi, de ranimer sa foi qui est un peu en souffrance. Et puis comment peut-il concilier sa foi avec sa pratique sexuelle qui est plutôt déviante, enfin, et plutôt mal acceptée. Et il écrit pendant plusieurs mois ce texte qui s'appelle « Non plus d'être tout ». Et finalement, il abandonne, et puis il séduit Marc Allègre. Ça finit de façon tragédienne, très, très immorale, hein, alors que Guéron reste catholique et sera toujours plus catholique par la suite, et deviendra un écrivain catholique, entrera à l'Action française. Gide, lui, voguera sur les bagues de la pédérastie, d'une pédérastie pleinement avouée. Voilà. Mais cette année 1916 est vraiment déterminante. Hein. Il se retire, et c'est là qu'il a conçu cet amour. C'est après qu'il a... Il se retire pour écrire, et c'est le moment où il tombe amoureux de Marc Allègre, et qu'il va séduire un an plus tard. Et toute sa vie ultérieure découle de ce qu'il a éprouvé à ce moment-là. Un reniement... Alors, reniement, si l'on veut, il se libère donc de ces chaînes. Enfin, c'est lui qui parle de chaînes, d'un enfermement, hein, qui tient au protestantisme. Enfin, mais en même temps, il y a une fidélité paradoxale à ce protestantisme, tout en ayant une vie assez inconciliable en apparence avec le protestantisme. Il reste fidèle aux différentes injonctions. Ce qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, au moment où Gide va en URSS, au moment où on lui demande de prononcer des discours, il reprend dans ses discours des formules évangéliques. C'est tout à fait incroyable. Des discours marxistes, donc. Et l'éloge qu'il fait, l'éloge funèbre de Maxime Gorki lorsqu'il arrive à Moscou. Et dans cet éloge funèbre, il y a des formules évangéliques. C'est tout à fait frappant. Je l'ai dit dans la biographie, je ne saurais pas quelle formule exactement, hein, je vous cite de mémoire, je vous dis ça de mémoire, mais c'est tout à fait hallucinant quoi, de lire les textes officiels qu'il prononce à Moscou ou ailleurs en 36, qui sont tout à fait, qui pourraient être prononcés par un pasteur. Une fidélité paradoxale, quoi, tout en menant une vie tout à fait antagoniste par rapport au protestantisme, bien sûr. Mais il reste marqué, en quelque sorte, par celui-là. Et puis sa morale, alors, malgré, évidemment, sa morale, elle est double. Il y a la morale du... morale du pédéraste, entre guillemets, c'est-à-dire de l'adulte aimant de très jeunes enfants. Mais en même temps, par exemple, avec Marc Allègre, il séduit Marc Allègre, adolescent de 15-16 ans, hein, quand il le séduit. Et ensuite, il entreprend son éducation. Donc, alors, éducation perverse d'un côté, hein, il y a des jeux sexuels, etc. Mais de l'autre, il lui apprend à rédiger correctement. Il essaye de lui apprendre à rédiger correctement, à écrire correctement un devoir de français. Et Gide écrit certains des devoirs de français, certaines des rédactions ou des dissertations qu'on demande à son fils. Et il a des sales notes, alors il n'est pas très fier. Le professeur lui a mis une sale note, il n'est pas très fier. Il a écrit le devoir du fils et le devoir est mal noté. Et Gide est un peu honteux. Quoi. Hein, il y a cette duplicité chez lui, mais cette duplicité qui se retourne sans cesse dans son contraire. Quoi. Et puis, alors, il y a cela, et d'autre part, il y a toujours ces formules, ces points fixes, ces références qui restent chez lui jusqu'au bout, comme dans les textes que j'ai cités à propos de la mort de Jeanne Drouin, la mort de l'enfant de Jeanne Drouin, ou bien la mort de sa femme, qui sont bouleversants. On voit que il a gardé du protestantisme finalement cette indifférence affectée, disons, vis-à-vis du cadavre, et en même temps cette espèce de lucidité un peu hallucinée en face du cadavre. Ces passages sont bouleversants et en même temps il veut s'en détacher pour se
rendre. Non, parce que c'est quand même la vision du cadavre qui le traumatise.
Ah oui.
En même temps. Il y a quelque chose quand même d'affecté dans dans sa position.
Oui, mais. Oui, bien sûr, il y a le cadavre, surtout le cadavre de l'enfant de Jeanne, c'est tout à fait bouleversant.
Parce que du protestantisme, on le voit dans son rejet, par exemple dans les faux monnayeurs, on voit son rejet d'une partie du protestantisme,
oui,
quand même.
Ça, c'est un peu la caricature, oui.
Oui, c'est comme la caricature. Ouais. Mais enfin, c'est aussi le rejet de tout un protestantisme qui considère lui comme moralisant.
Oui.
Comme évangélique, on dirait aujourd'hui, au sens évangélique. Ouais. Non, mais au sens évangélique strict, orthodoxie.
Oui, oui.
Tu vois, et ça, il en a quand même conscience. Gide a quand même conscience aussi de tout ce qui a été. Tous les clivages au sein du protestantisme, les clivages théologiques, ainsi de suite. Donc il repousse ce protestantisme-là pour épouser une autre forme de protestantisme qu'on qualifierait d'un point de vue théologique de protestantisme libéral,
oui,
dont il retient au fond un regard qui est le regard individualiste, qui est le regard critique, qui est ce détachement vis-à-vis d'une certaine forme de matérialisme, et ainsi de suite. Pas du matériel en tant que tel, mais d'une certaine forme de matérialisme. Donc il retient ce qu'il veut du protestantisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, bon, la question de la rédemption par l'Écriture, il y a quand même chez Gide, on a le sentiment d'une volonté de construire... quand il est au centre de son œuvre, il y a presque chez lui la volonté quand même de construire une nouvelle humanité, une nouvelle civilisation.
Oui,
il va loin.
Il
s'élève presque au rang de Christ.
Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'il adhère au communisme. Voilà.
Oui, on retrouve ça évidemment dans le communisme.
Alors, il y a des textes de Gide où il... alors, est-ce qu'il renie Dieu ? Ça, il y a des textes où, à la limite un peu, des textes qui sont... des textes surtout des années 30, où il s'en prend... il se moque un peu de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui respecte, du début à la fin, c'est le Christ. Ça, c'est assez étonnant, hein, la distinction entre Dieu et le Christ. Alors, dans le christianisme, d'accord, mais l'Évangile, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et alors, bien sûr, le Christ, à ce moment-là, il ne le révère plus comme le Fils de Dieu, mais c'est plus qu'un homme ordinaire, c'est de toute évidence plus qu'un homme ordinaire.
Est-ce que tu sais s'il a lu des théologiens, des...
Sans doute, mais je crois que j'ai dit ça, je l'ai écrit, mais je ne sais plus ce que... C'est un livre que j'ai écrit, donc il y a déjà une dizaine... Oh oui, que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, et que j'ai achevé d'écrire il y a déjà 4 ans, et depuis, j'ai pensé à autre chose. mais il avait surtout une connaissance de la Bible. Ah oui. Il le sait par cœur. Et oui. Il en émaille ses premiers écrits, même les nourritures terrestres, par exemple.
Oui, bien sûr. C'est très net. Ouais. Une autre question ?
C'est pas une question, c'est la différence entre la place intellectuelle de Gide aujourd'hui et la place intellectuelle qu'était Gide au moment de sa mort, puisque vous avez choisi de parler des 2 années.
Oui.
Sa mort a été saluée par... elle n'a pas été saluée, mais on a craché sur lui au moment de sa mort. Sauf qu'il y a eu un très beau texte de Sartre. Pour lui rendre hommage.
Alors, on a craché sur lui, relativement peu, un petit peu, mais.
Le milieu catholique était bien
oui.
Que le diable disparaisse.
Et les communistes aussi, hein, les communistes se sont vengés aussi, parce que les communistes lui ont jamais pardonné sa défection de 36. Et Gide a été quand même assez courageux à ce moment-là, parce que je pense qu'il a couru des risques sérieux, quand même, hein, de s'être retourné comme ça. Alors, il y a eu. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir connaître la fille de Gide,
ouais,
Catherine.
Elle est morte il y a 2-3 ans.
Elle est morte en... Attendez. Alors, elle a eu un AVC, comme moi-même, d'ailleurs. Nous avons eu un AVC la même année. Mais quand on a un AVC à 60 ans ou à 80 ans, c'est pas la même chose. Hein. C'est plus difficile de l'avoir tard. Vaut mieux l'avoir tôt, finalement. Alors...
Ou pas l'avoir du tout.
Ça. Ou pas l'avoir du tout, si on peut. Mais si vous... Si vous êtes exposé à l'AVC, il vaut mieux l'avoir à 60 ans qu'à 80 ans. Enfin bon, ça...
On ne choisit pas forcément non plus.
Et puis on peut l'avoir à 60 et à 80 ans, c'est vrai. On peut l'avoir les deux aussi, oui, ça c'est... Mais alors, donc... de quoi étais-je parti ? De Catherine Gide. Catherine Gide, qui était une femme extraordinaire. C'est la chance que j'ai eue de... j'ai eu de la chance de la connaître, de la rencontrer. Et elle m'a... encouragée. Alors évidemment, elle était un peu effrayée par certaines choses que j'avais écrites. La sexualité de son père, c'est une chose dont on ne pouvait pas parler. Ça, c'était vraiment... mais elle aimait.
Elle a en publier un petit inédit, là, le Ramier sur la.
Oui, oui, elle a publié le Ramier, qui est un texte audacieux, enfin, oui. Alors, bon, mais. Alors pourquoi parlais-je de Catherine Gide? Mais
parce que par rapport à sa mort, à la mort voilà. d'André Gide.
Par rapport à la mort de Gide.
Et parce que savoir s'il avait été.
Alors.
Dans le milieu intellectuel.
Si on l'avait craché sur.
Alors oui, Catherine Gide justement possédait toute une série de registres. Je ne sais plus combien il y en avait, une dizaine au moins. Et ces registres, c'était donc des dans lesquels étaient collés des articles de journaux. Mm-hmm. Et c'était rempli. Alors il y avait. Je crois qu'il y avait deux volumes, c'était des formats in quarto, et c'était rempli de d'articles de tous les bords, hein, catholiques, protestants, communistes, d'extrême droite. Enfin, il y avait tous les journaux, tous les hommes politiques, tous les journalistes, tous les écrivains de l'époque qui ont témoigné de la mort de Gide. C'est assez extraordinaire. Et alors, c'est vrai qu'il y a des attaques, c'est vrai qu'il est décrié dans certains milieux. Même François Mauriac, je vais noter quelques formules. Ce vieux berger, c'est Mauriac qui parle de Gide, ce vieux berger qui se manifeste devant la foule et qui a jeté sur ses épaules puissantes une peau de brebis, j'avoue qu'il me fascine. C'est Mauriac qui écrit ça. Je regarde son œil qui brûle à travers le masque. Il apprivoise les agneaux. Ils n'ont pas peur de lui et viennent manger dans sa main. Je me souviens d'un titre de Balzac, La dernière incarnation de Vautrin. Et certes, une part de nous-mêmes chérit Vautrin, quoi qu'il fasse, et sous tous ses déguisements, et nous ne cessons de chérir Gide, même lorsqu'au seuil de la mort, il joue au grand-père. D'ailleurs, pourquoi en eût-il ressenti de la honte? En vérité, il ne joue pas. Il aurait été aussi souligné, ce bon grand-père. C'est son plaisir de l'avant-dernier jour qu'il tenait en réserve. Après quoi, il ne lui reste plus rien à espérer. Il aurait épuisé toutes les joies, même les très pures. Ça, c'est Mauriac. Alors, c'est vrai que dans le concert qui accompagne la mort de Gide, il y a des centaines d'articles. C'est incroyable, enfin, qu'il y ait un tel écho. C'est un personnage capital. Aujourd'hui, on n'imagine pas qu'un écrivain soit à ce point encensé ou décrié, enfin, hein, selon le côté où on se place, par tous. Hein, tout le monde en parle. Et il y a aussi une chose qui a fait une énorme publicité à Gide, c'est ses émissions de radio. Hein, et, voilà.
Là où il fait sa leçon de piano.
Voilà. Voilà. Alors, il y a d'une part, il y a les émissions de radio avec Jean Amrouche. Ça établit une proximité entre Gide et le public, immédiate, quoi. Les gens qui ne l'avaient pas lu, ben, l'entendaient. Hein. Et Gide a une voix chaleureuse, il a une voix joviale. Enfin, c'est une voix assez capiteuse. C'est tout à fait étrange de l'entendre même aujourd'hui. Hein. Et puis, il y a le cinéma. Hein. Il y a le film de Marc Allégret. Hein. André Gide, je crois que ça s'appelle André Gide. Un film qui a été tourné dans les dernières semaines de son existence, c'est ça qui est extraordinaire. Le film a été tourné en décembre 1950 et janvier 1951. Donc c'est tout à la fin de la vie de Gide. Et Gide est très vivant et très heureux. Et on le voit sourire et faire sauter ses enfants sur ses genoux, ses petits-enfants sur ses genoux. C'est extraordinaire. Et même, il joue un petit jeu. Enfin, je ne saurais pas le faire, mais c'est tout à fait étonnant. Donc, dans les écrits qui sont consacrés à Gide au moment de sa mort, il y a à la fois l'éloge et le blâme. Il y a les deux. Et inextricablement liés, je dirais. Enfin, Mauriac est un bon témoin. Et Mauriac a jusqu'au bout espéré convertir Gide, évidemment, et lui donner la vie éternelle, en quelque sorte. Et puis, Gide a refusé le catholicisme, en tout cas. Ouais. Mais c'est un personnage fascinant. Et quand on le voit et qu'on l'entend, c'est le charme opère toujours. Enfin.
Mais surtout dans des œuvres comme Palud, moi je conseillerais à tout le
oui.
monde de lire ce livre qui
vous avez mille fois raison.
Qui est le plus drôle qui soit.
Oui, absolument. Palud, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Ouais, voilà. Palud qu'il a écrit donc. Au temps du symbolisme, où c'est déjà une critique, enfin une mise à distance du symbolisme par Gide. Ouais.
C'est vraiment plein d'esprit.
Mais lisez Gide, voilà, relisez Gide. Palud, c'est une très, très bonne suggestion. C'est un livre court, drôle, qui ne se prend pas au sérieux et qui parle de quoi ? Ben, qui parle de lui-même, qui parle de rien, et qui recommence. T'as lu de Les Marais, quoi. Les Marais, mais qui se tient.
Les œuvres de Gide que préférait Breton.
Oui.
Je cite dans l'anthologie de Bourgeois.
Oui. Alors, oui, ça c'est...
C'est des relations... Ils ne sont pas très peu connus, je suppose.
Alors, il y a eu des rapports très compliqués. Gide a été en conflit avec presque tout... Enfin, presque tous les écrivains ont été en conflit avec lui à un moment ou à un autre. Alors, les dadaïstes et futurs surréalistes, dont Aragon a écrit des choses épouvantables sur Gide, et puis Breton a été assez dur avec lui.
Dur
et en même temps...
À la fois admirant quand même certaines œuvres comme, justement, Palud de Prométhée.
Exactement. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que Gide était la figure de proue, finalement, de l'actualité. Et ce qu'a surtout admiré Breton au début, et Aragon, pendant la guerre de 14, hein, pendant qu'ils faisaient leur service, Breton était dans les hôpitaux. Et Breton admirait les caves du Vatican. Et l'Afcadio, l'acte gratuit. Ça a été vraiment une étincelle qui a fait germer le surréalisme, enfin, le dadaïsme et le surréalisme. L'acte gratuit et l'Afcadio dans les caves du Vatican, ça a été vraiment la révélation. Et Breton en parle, et donc il fait la connaissance de Gide peu après. Il est un peu déçu par Gide, il dit mais l'Afcadio, mais l'acte gratuit, c'est. Voilà. Et puis, il y a Palud que Breton, à juste titre, adorait. Breton a joué des tours à Gide également. Enfin, il y a une interview plus ou moins authentique, mais qui a fait
par laquelle. D'Arthur Cravant.
Oui, il y a des choses assez terribles. Quoi. Et puis quant à Aragon, Aragon est un personnage assez trouble et assez qui avait une duplicité totale. Et il y a des écrits de. D'Aragon très servile à l'égard de Gide, et puis finalement il y a des écrits de reniement. Enfin, il y a un reniement à partir du moment où Gide a trahi le communisme, Aragon lui a réglé les comptes, c'est assez épouvantable. Hein. Bon, j'ai pas beaucoup de tendresse pour Aragon, excusez-moi, mais c'est surtout
celui de cette époque.
Oui, voilà, Gide, bien sûr. Et j'admire beaucoup l'écrivain Aragon, évidemment, mais il y a des choses terribles. Il y a des articles d'Aragon au moment de la guerre. Enfin, quand la guerre se termine et que le Parti communiste apparaît vainqueur, Aragon essaye de faire passer Gide pour un collaborateur. Il y a un texte assez épouvantable. Et il faut que les amis de Gide interviennent pour lui conseiller de ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, de conseiller de ne pas répondre parce que c'est trop... C'est en 1944, je crois. Il y a des choses terribles.
Qu'est-ce qu'il dit des juifs, Gide
Alors, ça, bon, Gide n'est pas un être parfait, hein, évidemment. Il est...
Je rassure, Franck.
Alors, j'ai écrit...
Il était aussi servile avec Proust, quand même. Au début où il lit Proust, il est quand même assez servile. Hein.
Oui, mais attends, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Mais...
Non, mais pour répondre à Aragon, pour défendre un peu Aragon.
Oui, mais on peut le défendre, évidemment. Mais il y a vraiment des textes.
Non, sur les juifs, vas-y.
C'est une énorme question. C'est une énorme question. J'ai écrit un article qui n'est pas publié, mais qui va paraître sur l'antisémitisme de Gide. Alors, c'est ça qui est très curieux. Gide est Dreyfusard. Il est Dreyfusard comme l'était sa femme, comme l'était Madeleine. Il prend la défense de Dreyfus, mais timidement, alors que la plupart...
C'est fort, quand même.
Il signe le fameux article de Zola. Enfin, il est quand même Dreyfusard, hein, de toute façon. Mais il le fait avec beaucoup de résistance, et alors que ses amis, ses meilleurs amis, sont anti-Dreyfusard. Ouais. Et ses meilleurs amis, c'est qui ? C'est...
Valéry.
Et voilà. Et c'est Paul Valéry. Et puis... comment s'appelle-t-il Moi, j'oublie déjà les noms, c'est pas possible. Oui, Paul Valéry, c'est...
Pierre-Louis, peut-être.
Pierre-Louis, évidemment, oui, aussi, bien sûr. Et puis, le...
Roy.
Oui, Roy, voilà, c'est celui que je cherchais. Merci. C'est vous qui le... Merci. Ben, je vois que les gens connaissent très bien le contexte, alors je n'ai rien à dire. Alors, j'ai essayé, dans un article assez long, de retracer le cheminement de Gide... dans son rapport aux Juifs, il y a des phrases terribles dans son journal sur les Juifs. Le terme d'antisémite n'est vraiment pas exagéré, c'est tout à fait celui qui convient. Il est protestant, il connaît des Juifs, il fréquente des Juifs, il fréquente Léon Blum, par exemple. Léon Blum est un camarade de jeunesse, enfin, ils sont écrivains symbolistes l'un et l'autre en même temps, hein. Ils se connaissent depuis la fin du 19e siècle au moins. Et ils vont se retrouver périodiquement. Ils se retrouvent au moment du Front populaire. Gide va acclamer Blum à la Mutualité, par exemple, en 1936. Et puis Gide retrouve Léon Blum, revenu d'Allemagne, revenu de sa captivité en Allemagne, après la guerre. Et il maintient une espèce de suspicion à l'égard des Juifs. Et Blum lui fait une lettre, lui écrit une lettre où il dit que cette attitude l'avait peiné. Et notamment le portrait que Gide fait de Léon Blum dans son journal en 1914. C'est ça. C'est en janvier 1914, avant la guerre, juste avant la guerre, que Gide fait un portrait incendiaire de Léon Blum. Et c'est le portrait du juif tel que l'imagine l'Action française. C'est exactement ça. Hein. Et ce portrait, évidemment, a fait du mal à Blum. Blum l'a lu, et Gide, au moment de publier son journal, la petite dame lui demande « Mais vous allez publier ça? Vous croyez que c'est... » Oh, Gide dit « Oui ». C'est Gide qui se demande s'il doit le publier ou pas. Le journal est publié juste avant la guerre, c'est après le Front populaire, après les ennuis qu'il a avec les staliniens. Et Gide est prêt à supprimer le passage. Et la petite dame, donc Marianne Van Hasselberg, qui est sa conseillère, presque sa compagne, pourrait-on dire, lui dit « Mais si, ça va, c'est tout à fait bien ». Et Gide publie ce texte. Et évidemment, ce texte est quand même assez dur, assez épouvantable, on peut dire. Alors, Léon Blum est un de ceux qui non pas lui demande des comptes, c'est exagéré de dire, mais qui ne s'explique pas très bien, qui lui demande, mais j'étais très, très, très affecté par ce texte. Et il y a un autre ami juif de Gide qui ne lui a pas pardonné non plus, cet antisémitisme, c'est Jacques Chiffrin. Ou Chiffrine, le fondateur
de la Pléiade,
voilà. Qui était un des meilleurs amis de Gide, et c'est grâce à Gide, d'ailleurs, c'est ça le paradoxe, c'est que Gide a aidé des Juifs pendant la guerre, avant la guerre et pendant la guerre, tout en campant sur ses positions doctrinaires, un peu stupides, enfin. Et Jacques Chiffrin, donc, grâce à Gide, a pu gagner les États-Unis. Et qu'est-ce qu'a fait Gide? Il lui a offert le billet de bateau. Et un billet de bateau, c'était pas donné. Hein. Donc Chiffrin et sa femme et son fils ont gagné le Maroc. Le bateau s'est arrêté au Maroc. Il n'est pas reparti pour les États-Unis. Et Gide a renvoyé un billet. Donc ça a dû, il a payé deux passages.
Tu veux dire que chez lui, c'est un antisémitisme théorique plus que... C'est pas la Noël Vesper, tout ce groupe de protestants.
Ah non. Non. J'ai montré justement dans un chapitre du tome 2, je l'ai montré à partir de documents, à partir de la correspondance de Gide très précise. Il aide des réfugiés juifs allemands, surtout dans les années fin des années 30, qui sont réfugiés en France. Il aide à les faire reconnaître comme réfugiés, parce que le ministre de l'Intérieur a été épouvantable. Enfin, Gide ne cesse d'écrire, écrit 10 fois la même personne pour obtenir que tel prisonnier soit libéré, enfin, qui est emprisonné parce que, par stupidité, enfin, par la stupidité de l'administration. Non, Gide a une connaissance très importante, une action très importante. Tant qu'il est en France, jusqu'en 1942, il s'occupe des Juifs. Il s'occupe des Juifs. De ceux qu'il connaît, et de tous les Juifs réfugiés. Quoi. Et notamment... alors, par exemple, il y a... Oui, le nom m'échappe encore. Il y a un écrivain d'origine polonaise, mais comment ça, qui a, le nom m'échappe, mais qui a fui la France, mais qui a fini par fuir soit en 43, en 44, assez, une date assez, assez tardive, non sans avoir risqué sa vie pendant, pendant ces années-là. Et Gide, jusqu'au bout, tant qu'il est en France, essaye de le faire sortir. Il est en rapport aussi avec le, l'Américain, vous savez...
Free.
Oui.
Oui, c'est
Norman Fry.
C'est ça.
Oui, oui, oui. Il est en rapport avec lui, et Fry lui, lui demande s'il n'a pas envie d'aller aux États-Unis. Gide a failli être...
C'est cet Américain qui a fait passer tous les soirées de Marseille.
Oui, exactement, exactement. Et il est allé... Alors c'est assez intéressant parce que cet Américain va voir Gide, hein, qui est à l'époque, il est à... Oh là là, c'est terrible d'avoir si peu de mémoire. Je m'embrouille déjà. Il va voir Gide dans... il est en Provence. Hein, il est à Cabris. Il doit être à Cabris. Il va le voir. Alors, il va le voir et il raconte son odyssée pour aller le voir. Bon, Cabris est situé sur les hauteurs. Et à l'époque, il y a plus d'essence dans les voitures. C'est les voitures à gazogène. Alors, c'est assez... Un gazogène sur les routes de Provence, les routes montagneuses de Provence, c'est assez extraordinaire. Et il va le voir, il passe une soirée avec Gide, et Gide décide de rester. C'est très curieux. Gide n'est jamais allé aux États-Unis, il n'est jamais allé en Amérique. Il y a une sorte de méfiance, ou de... alors qu'il était, il a été invité après la guerre aux États-Unis. On l'a invité à faire une série de conférences, et il a dit oui, et puis il n'y est pas allé, quoi, en 48. Mais non, cet antisémitisme est très compliqué, parce que en même temps, Gide, d'un côté, aide les Juifs, ça c'est indéniable, hein, indéniable, et il a des propos assez déments, quoi, à côté. Et dans le même temps, hein, il n'y a pas de contradiction, avec, je crois, quand même une évolution vers plus de compréhension. Il y a aussi, alors il faut aussi noter qu'il y a, une chose qui est étonnante, c'est que dans le journal, il n'est pratiquement pas question des camps de concentration. Les camps de concentration, ça, il ignore. Alors que si on compare avec le journal de Roger Martin Dugard, de la même époque, Roger Martin Dugard est très conscient et en parle longuement. Donc il y a des choses qui l'indiffèrent.
Enfin, oui, c'est surprenant.
Oui. Il y a des absences singulières.
Bien, je vous propose, si vous le souhaitez, de prolonger la conversation en tête-à-tête avec Franck après cette conférence. Vous pouvez retrouver aussi sur la table, juste derrière, les ouvrages de Franck Lestringant. Hein. Donc évidemment, c'est deux volumes de cette biographie consacrée à Gide. Je vous rappelle, c'est un monument. Vous avez une mine d'informations, hein, comme vous avez eu un petit extrait ce soir. Vous pouvez retrouver aussi les ouvrages de Franck Lestringant consacrés au XVIe siècle, comme le Noël sauvage ou Une sainte horreur, Voyage en Eucharistie, sur les conflits théologiques qui se transportent en Amérique du Sud, en terre du Brésil.
Ouais.
C'est un ouvrage aussi remarquable, publié chez Drou. Vous pouvez retrouver donc tous ces ouvrages derrière, profitez-en. Je rappelle que la prochaine conférence ici, organisée par la librairie Jean Calvin, ça sera le mardi 11 octobre, sur un thème assez peu abordé par le premier historien qui s'est penché sur cette question. C'est Jean-Pierre Bois qui viendra nous en parler, qui est le grand spécialiste en France de l'histoire militaire et qui vient de publier la première histoire de la paix. C'est étonnant, hein, il n'y avait jamais eu d'écrit sur l'histoire de la paix qu'il a publié donc aux éditions Perrin. Et Jean-Pierre Bois, donc, est professeur émérite à l'Université de Nantes, hein, qui est un des grands spécialistes français de l'histoire militaire, viendra nous traiter ce sujet le mardi 11 octobre à 20h30. Vous pouvez retrouver sur les programmes présents ici, hein, le reste des conférences, donc celle-ci, puis il y en aura une autre en novembre. Je vous précise aussi que le château du Bois-Tiffret, qui est le musée de la France protestante de l'Ouest, organise sa rencontre annuelle, donc en 2016, et elle aura lieu cette année le dimanche 10 juillet. Vous pouvez retrouver ici le programme aussi sur la table, donc n'hésitez pas à vous servir. Je salue Denis, son conservateur, qui est parmi nous, un fidèle, voilà, avec qui aussi la librairie Jean Calvin travaille. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces informations ici sur la table. Merci de votre attention et je vous propose de remercier encore Franck Lestringant.